There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Pour son Noël, mes chers parents, s'il vous plaît, il est enfin temps, offrez-nous Offrez-nous un smartphone pour Noël. On vous en supplie, un smartphone pour Noël.
Vous êtes bien trop jeune, encore des enfants.
Passez trop de temps sur les écrans.
Non, pas de smartphone pour Noël.
Mais on connaît tous les dangers.
Les sites interdits et les faux amis.
Les messages qui blessent, les photos de fesses.
Arrêtez de stresser, on n'est plus des bébés. Vous voulez nous couper, nous surprotéger.
Quand on arrive en crèche, pas besoin de smartphone. Parce qu'à votre époque, y'avait pas de smartphone.
Oh, oh. Cyberharcèlement, c'est ça le plus inquiétant. Vous n'êtes pas préparé à être si connecté.
Non. Pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone.
On vit une dictature, une injustice pure. Donnez-nous une chance, faites-nous confiance.
Non, pas de smartphone, zéro dangereux.
On vous promet, on sera sérieux.
Non.
Pas de smartphone pour Noël.
On s'en supplie.
Pas de smartphone pour Noël.
On n'aura plus d'amis.
Pas de smartphone pour Noël.
On vous entend, parents et enfants, vos préoccupations, vos revendications, et on peut vous réconcilier avec Cyberphone cette année.
Un smartphone reconditionné, de qualité super sécurisée, livre et conseil personnalisé. Si vous êtes passionné, le cache intégral des numéros suspects, plus besoin d'être inquiet, voilà ce qu'on vous laisse.
Cyberphone pour Noël,
Cyberphone pour Noël.
Toronto's most spectacular night out is Moulin Rouge, the musical. Winner of 10 Tony Awards, including Best Musical. The New York Times calls it dazzling, gasp-inspiring. In Moulin Rouge, life is beautiful. November 19th through January 12th at the CAA Ed Mirvish Theater. On sale now at Mirvish.com.
Trump.
Imaginez un homme. Un homme dont le simple nom suffit à fracturer des nations, enflammer les esprits et provoquer des débats.
Are you ready? Can I talk?
Yeah, what's the answer?
Do you mind? It's very simple that you are a nasty person, I'll tell you.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière cette façade flamboyante se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire de pouvoir, de secrets et de dangers que peu osent dévoiler. Un homme qui a bâti des empires, les a vus s'effondrer et qui à chaque chute s'est relevé plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les mystères cachés de cet homme tant adoré que détesté. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin pourquoi le monde entier parle de Donald Trump, mais surtout pourquoi certains sont prêts à tout pour le faire taire.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
C'est France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarii. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs, parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Merci d'avoir choisi Popourisho, CUT 89,5 FM.
votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader. Je tiens à remercier infiniment ceux et celles qui ont contribué au succès de notre campagne de financement automnale. Grâce à vous, nous avons amplement dépassé l'objectif fixé, soit 120 000 dollars. Un immense merci aux restaurants Bistro Entreprises qui nous ont offert des cartes cadeaux et des dons en argent. Chaque semaine, je ferai un tirage au sort. Si vous avez fait un don à Popourichaud, alors veuillez m'envoyer votre adresse courriel et votre adresse postale au cas vous êtes parmi nos gagnants. Pour toute question concernant votre reçu pour l'impôt, veuillez m'écrire directement à popourri@cut.fm. Merci de nous faire confiance. Bonjour chers amis de la radio, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. 38 ans déjà. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche, en grand nombre. Et au menu ce dimanche, rester sur X ou partir? C'est la grande question que se posent beaucoup de personnes et nos collègues dans les médias francophones au Canada et en France. Message faux ou trompeur? Elon Musk ne cesse de relayer des fake news, des fausses nouvelles sur la plateforme X. Est-il un homme dangereux? Les experts en désinformation et en complotisme craignent depuis très longtemps que Musk utilise sa plateforme pour empirer la situation en ligne. Dès qu'il a acheté Twitter en 2022, il a montré une propension à propager des affirmations infondées, laquelle s'accentue depuis qu'il s'est rapproché de la droite conservatrice et a appuyé la candidature de Donald Trump. Face à cette situation, une question se pose, tant pour les médias que pour les simples utilisateurs. Faut-il quitter X? Qu'en pensez-vous? Nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Allez, écrivez-moi. On en parle avec des spécialistes, des professeurs et des journalistes. Collaboration spéciale à France Inter. L'idole de beaucoup de francophones est en tournée au Québec pour célébrer ses 60 ans de carrière. À 85 ans, Enrico Macias, chanteur français d'origine algérienne, est de passage dans la belle province. On aura un extrait d'un entretien accordé à Radio-Canada. En exclusivité, Stromae fait commandeur de l'ordre de la couronne par le roi Philippe de Belgique. Fait un comeback avec une très belle chanson, avec l'artiste Pomme pour le compte de Netflix. Nous aurons aussi droit à quelques nouveautés des Antilles grâce à nos médias partenaires en Martinique et Guadeloupe. Du soleil au rendez-vous. Et ne manquez pas toutes les dernières nouvelles en provenance d'Haïti que vous retrouverez vers 12h10. Avec le journal d'Haïti et des Amériques de RFI. Nous aurons aussi les échos de nos partenaires de la communication, les éditions Prise de Parole, le Créfo et un jeu concours que nous lance Linda Giguère de TV5 Monde. D'ailleurs, je vous invite à retrouver toutes ces informations sur notre site popourichaud.com. Et avant de passer à Linda Giguère et le magazine de France Inter, voici en exclusivité Stromae, chanteur belge, et la chanteuse Pomme, qui ont lancé la semaine dernière le titre « Ma meilleure ennemie ». Cette chanson est au générique de la série Arcane League de Legends, saison 2. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire et recevez les titres des chansons les plus populaires dans les pays francophones. Popourri Show, CUT-FM, avec Stromae et Pomme.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions,
la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi.
Et si tu cherches encore la voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi.
De 11h à 13h, Popourri Chaussures CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Bonsoir Linda.
Bonsoir Mohamed.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer.
Non, mais avant cela, d'abord dites-moi merci d'avoir dit planche à roulettes.
Ah, c'est grâce à vous. Évidemment, nous sommes sur une chaîne francophone. C'est la moindre des choses. Donc j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Pour la première fois de son histoire, l'humeur de Linda lance un concours. Le mot de l'année 2024 de TV5 Monde. Et oui, à l'instar des grandes rédactions internationales, nous avons nous aussi décidé de faire appel à vous, public, pour dénicher le mot de l'année. Quel est, durant les derniers mois écoulés, le mot qui vous a le plus intrigué, marqué, interrogé? Faites vos propositions. Attention, pour être éligible, Mohamed, votre mot doit répondre à 7 critères. Il doit être nouveau, il ne doit pas figurer dans les dictionnaires usuels comme le Larousse ou le Robert. Il peut cependant être présent dans le Wiktionnaire ou le dictionnaire des francophones en ligne. Ce mot doit avoir été largement diffusé dans l'année, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il doit refléter une tendance, il doit combler un vide lexical, c'est-à-dire qu'il ne doit pas doubler un mot qui existe déjà. D'accord. Ce doit être un nom commun, pas de nom propre. Ce peut être un mot simple ou une locution comme figé, comme bombe climatique, qui a remporté l'an dernier le concours de la RTBF et du journal Le Soir dont nous nous sommes inspirés. 7e et dernier critère, le mot doit avoir une espérance de vie, idéalement survivre à l'année 2024. Ça vous tente, Mohamed?
C'est tentant, j'avoue.
Vous avez des idées?
Moi, j'aurais Smombi, mais il n'est pas utilisé.
Smombi,
en fait,
contraction de smartphone et de zombie, absolument. Alors, c'est pas encore dans le dictionnaire, donc c'est un mot qui serait éligible. C'est à vous de jouer. Il vous suffit de vous connecter au compte de TV5 Monde sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et de soumettre vos propositions en commentaire sous cette chronique. Vous avez jusqu'au 6 décembre à minuit pour faire vos propositions. À partir du 7, un jury de 6 journalistes de la rédaction de TV5 Monde va se pencher sur vos suggestions. Le mot vainqueur sera dévoilé le 12 décembre dans l'humeur de Linda. Alors si ça peut vous inspirer, outre Smombi, sachez que dans les années passées, les mots spoilés, fake news, chill, déconfinement ou malaisant ont été plébiscités dans les concours de la RTBF Le Soir. Certains sont même entrés dans les dictionnaires, ce qui était signe qu'ils étaient dans l'air du temps. Alors ne perdez pas de temps. Ouvrez vos yeux, tendez vos oreilles aux usages de la langue française. C'est vous qui la faites vivre, cette langue. La date limite pour envoyer les propositions, Mohamed?
6 décembre. Vous avez 16 jours. Merci.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, Apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Dans le cadre de son partenariat avec RFI, Popourri Show est fier de vous présenter Ça va le monde, un nouveau magazine qui vous fait découvrir des textes et des auteurs de théâtre vivant en Afrique, dans les Caraïbes ou au Proche-Orient, et écrivant en français pour raconter un monde multilingue et pluriculturel. Chaque année, 6 textes sont lus en public au Festival d'Avignon et enregistrés pour diffusion en direct et en vidéo sur Facebook, puis sur les antennes de RFI. Ça va le monde, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI.
L'histoire d'Elon Reeve Musk commence le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Sa mère, May Altman, est canadienne. Elle a un passé de mannequin et s'est reconvertie en nutritionniste. Son père, Errol Musk, lui, est sud-africain. Il est ingénieur mécanicien, promoteur immobilier et possède une mine d'émeraude en Zambie. C'est avec son père qu'il apprend les tâches manuelles, à fabriquer des objets, à faire attention aux détails et à se salir les mains. On raconte d'ailleurs que le jeune Elon fabrique des petites fusées en carton dès son enfance. C'est donc à Pretoria que notre histoire commence, que le jeune Elon grandit et forge ses premières armes. Il faut bien dire qu'à l'école, Elon Musk n'est pas le meilleur élève. Il n'impressionne personne, il est même plutôt timide. Il n'est pas très sportif, assez rêveur, introverti. En fait, il est assez différent des autres enfants à qui il grandit dans cette Afrique du Sud du début des années 80 en pleine apartheid. Pour rappel, depuis les années 50, s'est développée une politique de ségrégation ethnique dans le pays qui consiste à établir des zones spécialement réservées aux blancs et d'autres spécialement réservées aux noirs. Elon Musk grandit donc dans l'univers des Afrikaners, les blancs d'Afrique du Sud qui élèvent souvent leurs enfants dans la violence et la dureté. Son caractère entre un peu en contradiction avec ce qu'on peut attendre d'un jeune garçon à l'époque. D'autant plus qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage, comme il le révélera plus tard.
I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL.
France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Hier soir, quand Ouest France a annoncé qu'il était le premier journal français à cesser de poster sur X, anciennement Twitter, donc j'ai retweeté et posé la question qui nous occupe ce soir, partir ou rester. J'ai reçu une volée de messages, certains constructifs, même de la part de gens qui estiment que la liberté d'expression doit tout accueillir, ceux aussi qui savent faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et puis bien sûr, j'ai aussi pris une volée de tarte dans la gueule, assez conforme à ce qu'est devenu Twitter. Je vous en donne un petit florilège, hein. On m'a traité de commissariat politique, on m'a conseillé d'arrêter de chialer, on m'a demandé d'arrêter mon rond atlantico-mondialiste, on m'a traité de boomer gauchiste, on m'a expliqué que les médias mainstream mentaient toujours et qu'on le savait depuis la période Covid-injection, on m'a expliqué que je traitais tout le monde de raciste et de fasciste depuis des années, donc bien fait pour moi. Tout ça donne envie d'engager le dialogue autant que de manger un rat. On a tous cru à un moment que les réseaux sociaux allaient changer notre manière de voir le monde et permettre une autre conversation directe, et c'est encore le cas parfois. Sauf qu'Elon Musk a les clés de l'algorithme et ça change tout. Désormais également, si vous n'achetez pas le macaron bleu, vous disparaissez. Et c'est là que le jeu est biaisé. En partant, Ouest France a dit qu'aucune garantie n'était déployée face au harcèlement, face à la violence et la désinformation. Le Guardian de Londres avait expliqué que les avantages de rester étaient désormais moins importants que les désavantages. Et pour être tout à fait transparent, sachez que le groupe Radio France et toutes les radios qu'il compose, donc nous, dans le groupe, la question n'est pas encore tranchée, mais elle existe. Notez aussi que Apple ne fait plus de pub sur X, ni Disney d'ailleurs. Alors, partir parce que Twitter est devenu toxique, rester pour garder le meilleur et ne jamais perdre de vue ce qui se dit, d'où viennent les infos quand elles sont douteuses et diffusées par qui. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dan, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, il y a plusieurs choses, en fait, mais vous en avez déjà dit pas mal que je pense. Moi, déjà, la motivation de quitter Twitter, c'est quelque chose que je mûris depuis un petit moment, parce que en fait, ça a été complètement corrompu par Elon Musk. Mais là, en fait, il y a un cap supplémentaire qui a été franchi, c'est le fait que Elon Musk devienne un objet... impossible à éviter sur les réseaux sociaux, tous confondus, pas que X d'ailleurs, parce qu'on peut le bloquer sur X. Et en fait, ce qu'il dit, moi, me met très mal à l'aise, me donne envie de vomir. C'est un petit peu le durian d'Internet. En ce moment, il est partout, il pue. Et il a vraiment des propos dégueulasses. C'est-à-dire, il explique qu'il vire des gens parce que ils étaient un petit peu empathiques, progressistes. Enfin, c'est vraiment une vision très... très effrayante de l'avenir, c'est cette personne-là qui maintenant est au pouvoir. Et donc c'est un petit peu le parachèvement, ce personnage, d'une dérive de ce réseau social qui, sur lequel je suis allé pour avoir des faits, pour avoir l'accès à une information à la source, et qui est devenu un ramassis de complotistes, de haineux. Et du coup, Dan, vous avez migré ailleurs ou pas? Non, alors c'est pas que j'ai migré, c'est en fait je pense même je vais à un moment donné, ce type, je vais essayer de m'éloigner des réseaux sociaux, puisqu'en plus, ces réseaux sociaux sont toxiques, en fait. Mm-hmm. On ne le savait pas à l'époque, mais maintenant, on sait que le scroll comme ça, un petit peu infini, c'est quelque chose qui est nocif pour la santé, qui mange notre attention, qui mange notre cerveau. Donc, pour l'instant, je ne suis pas pressé de trouver autre chose. Je suis presque content d'être écœuré, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui me faisait mal à la santé et que j'étais un peu dépendant. C'est un peu comme de l'alcool frelaté qu'on dirait, c'est bien, il est frelaté, je vais pouvoir éviter l'alcool maintenant. Voilà, bah vive la prohibition, sans quand je vous entends, Dan. Merci beaucoup. Merci pour ces remarques et cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a François-Xavier Lefranc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du directoire de Ouest France et vous allez pouvoir nous raconter. Il y a Fabrice Epelboin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Je vais commencer avec vous, Fabrice Epelboin. Il y a beaucoup d'arguments que Dan a donné, mais on voit bien qu'il y a eu la bascule Musk. Est-ce que on a l'impression que cette discussion qui existe partout désormais, dans les journaux, chez les gros comptes, c'est une discussion avant-après Musk ou pas? Parce que
ça
les réseaux sociaux n'étaient pas vertueux avant. Hein,
Non, ils n'étaient pas du tout vertueux avant. Il s'est passé des choses assez sales avant qu'on a glissé sous le tapis et qu'il va falloir regarder en face. Maintenant que Musk a cette position de pouvoir qu'il a et maintenant que Donald Trump a annoncé des grands procès, un grand démantèlement de tout un écosystème qui gérait les contenus, on va dire ça comme ça. Et ça, il va falloir le regarder en face et ça va pas être joli à voir. Donc effectivement, je peux comprendre que beaucoup de gens préfèrent quitter les réseaux sociaux pour ne pas avoir à se confronter à tout ça, parce que ça va être sale, ça va être dérangeant. Il y a eu un avant et après Musk dans sa prise de contrôle de Twitter, indiscutablement. On est passé d'un Twitter qui était essentiellement démocrate à un Twitter qui aujourd'hui a grosso bon an mal an, aux États-Unis, on n'a pas vraiment les chiffres en France, mais 47% de démocrates, 46% de mémoire de républicains, et donc quelque chose de plus équilibré qui représente plus la société, mais effectivement ça pue. Là, je reprends les propos de votre premier auditeur, indiscutablement ça pue. Maintenant il faudrait quand même ne pas confondre l'odeur du thermomètre et sa fonction. Oui. Ça n'est qu'un thermomètre. Mmh. Effectivement, ça pue, mais c'est pas parce que c'est un thermomètre que ça pue, c'est de par son usage.
Alors, on va y revenir effectivement, parce que ça pose aussi la question de la migration. Refaire ailleurs, mais refaire la même chose ailleurs, à la fin, on se retrouve confronté au même souci. François-Xavier Lefranc, moi, j'imagine que la décision de Ouest France, elle vient de loin, elle a été longtemps mûrie. Est-ce que le démarrage de la discussion, c'est le basculement de Twitter chez Elon Musk et la décision désormais qu'il est assis à la droite de Trump, c'est dans ce sens-là que ça se passe ou pas du tout?
Non. En fait, le démarrage, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk et l'annonce par Elon Musk qu'il mettait fin à toute régulation. Mm-hmm. C'est ça le démarrage. Et on a mis du temps parce que, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais alors nous sommes évidemment extrêmement attachés à la liberté d'expression et on se bat pour ça. Et nous sommes extrêmement attachés au principe du réseau social qui permet à n'importe qui de s'exprimer. Je trouve que c'est un outil fabuleux. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un outil fabuleux. La seule chose, c'est que nous sommes pour l'application du droit. Et nous pensons que ça ne peut pas être un univers de non-droit. Or, c'est devenu aujourd'hui un univers de non-droit sur lequel des tas de gens se font démolir, agresser, insulter, sans pouvoir faire valoir leurs droits, sans pouvoir se défendre. Je ne parle pas des fausses nouvelles qui tombent du matin au soir, sans aucun, absolument aucun contrôle, aucune régulation. Mais c'est ce que Musk a fait de Twitter, qu'il a baptisé X, qui nous donne tout simplement envie de nous on a autre chose à faire, mais comme on aime les réseaux sociaux, on est sur d'autres réseaux sociaux.
Alors j'allais dire, où est-ce que vous avez migré
Nous on est sur Blue Sky, on est sur LinkedIn, on a des millions de followers sur Facebook, enfin on on est extrêmement attaché à la liberté d'expression, mais on pense que on ne peut pas imaginer un univers d'expression aussi puissant que ça sans que le droit puisse le réguler.
Moi, je veux bien qu'on joue à ça, mais le débat d'aujourd'hui, c'est rester ou quitter Twitter. Donc, je comprends ce que vous êtes en train de dire l'un l'autre. C'est difficile. Revenez sur Twitter, s'il vous plaît.
Non, on est d'accord sur le fait que c'est un endroit. Mon point est que c'est pas la seule et que c'est généralisé. Et qu'effectivement, de toute façon, la justice est totalement dépassée, que ce soit pour les agressions dans la rue, les vols à l'étalage ou les agressions sur Twitter. La justice est totalement, totalement dépassée. Là-dessus, convenons tout à fait du constat.
Allez, Hervé est avec nous. Bonsoir, Hervé.
Oui,
on vous écoute.
Bonsoir à tous. Oui, vous m'entendez?
Ah, très très bien, allez-y.
Oui, bonsoir. Bonsoir à Béthé. Merci beaucoup pour France Inter pour participer à cette émission. Concernant votre sujet, quitter ou rester Twitter, moi je reste sur Twitter et je continue Twitter parce que pour moi c'est un canal d'information. Un canal d'information qui complète les médias classiques mainstream, France Inter, France Info, France Info, pour ne pas les citer. Twitter, avec l'information qu'on a, ça me permet un peu de décrypter et décoder les informations que je reçois de ces médias, on va dire, publics, comme France Inter, par exemple. Mm-hmm. Une fois, j'ai écouté une journaliste qui me disait: il y a le problème avec le journalisme, ou à France Inter par exemple, c'est que tous les journalistes viennent des mêmes écoles de journalisme, ou des écoles de journalisme, où à peu près on pense à peu près la même chose. Donc il y a vraiment un manque, ou de la diversité intellectuelle, ou des avis, ou des positions, et on a une sorte des clones qui pensent, qui parlent à peu près la même chose, mais forcément sans que ce soit concerté.
Ouais.
Et donc on a, vous voyez ce que je veux dire, donc on n'a pas vraiment une grande diversité.
Mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple, en fait, de ce que vous entendez? Est-ce que vous avez été chercher ailleurs sur Twitter?
Exemple. Par exemple, vous savez, avec les pogroms d'Amsterdam, vous avez la première réaction de France Info, ça a été de dire incident entre supporters à Amsterdam. Ok, point. Okay. On ne parle pas de la dimension antisémite des attaques sur Amsterdam. En allant sur Twitter, on voit ce qui se passe, on voit les mots qui sont prononcés.
Mais
on
ça
voit
dépend par qui, non?
Par les agresseurs.
Personne, mais ça dépend de si, le tout, c'est de savoir qui parle, quel compte parle, et qu'est-ce qu'il vous dit.
D'accord, mais ça permet de compléter, ça permet de relativiser, et ça permet de décrypter. Donc, je veux dire, ça ne va pas remplacer France Inter, c'est clair, ça ne va pas remplacer France Info, ça permet de compléter, relativiser et de se poser des questions.
Moi, ce que je voudrais, j'entends très bien ce que vous dites, et non seulement vous avez le droit, mais vous avez le droit d'exercer votre esprit critique partout, Hervé, vous avez bien raison. Le principe qui est le nôtre et qui est toujours difficile à la vitesse où vont les médias aujourd'hui, où vont les infos, c'est que il faut le temps de recouper, justement. Et quand, par exemple, vous parlez du premier tweet de France Info et qui dit il y a eu altercation à ce moment-là, avant de savoir comment... je vois, vous faites comme ça avec la tête, Fabrice Eppelbaum.
Oui, parce que j'ai aussi suivi ça en parallèle. Les médias
de recouper
et Twitter.
Et d'attendre d'être sûr des choses avant de les dire. Mais après, effectivement, j'entends bien que vous pouvez aller le recouper sur un autre compte si vous le souhaitez. Encore faut-il, encore une fois, savoir qui parle et d'où, en fait. Et est-ce qu'on est chaque fois sûr sur un compte Twitter qu'on sait qui parle et d'où?
Là, en l'occurrence, oui. On est dans une situation de crise où, effectivement, Twitter, dès les débuts, souvenez-vous de ce Boeing qui a atterri dans la rivière de l'Hudson à New York et qui est arrivé dans tous les foyers via Twitter, bien avant CNN, ce qui a marqué les tout débuts de Twitter en 2007-2008, où, pour le breaking news, effectivement, Twitter était plus fin que les médias traditionnels pour rapporter les faits. Donc, pour ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est clair que la quantité d'informations qui déferlait sur Twitter avec une caractérisation antisémite qui ne faisait pas l'ombre d'un doute, alors que les médias commençaient timidement à aborder l'information, le décalage était extrêmement violent. Et que dès qu'on a finalement quelque chose qui est de l'ordre de la breaking news et qu'on est sur des sujets, on va dire, tabous, ce décalage est d'une violence extrême. Et porte des préjudices lourds sur la crédibilité des médias, ça c'est certain.
J'aimerais, François-Xavier Lefranc, que vous puissiez réagir à ça, le président du directoire de Ouest France. Est-ce que, et au fond je vais le formuler comme ça parce que je veux pas qu'on soit dans du spécifique, sinon on n'en sortira jamais. Est-ce qu'on n'a jamais trouvé sa place, en fait, quand on est média traditionnel, comme on dit, sur un réseau social comme Twitter?
Mais si, on a, enfin nous on a, on, comme je vous le disais, on est sur plusieurs réseaux sociaux, on a des millions de contacts et on estime y avoir trouvé notre place. Et je le redis, on pense que c'est des outils qui peuvent être extrêmement intéressants pour la liberté d'expression, pour la diffusion de l'information. C'est pas ça qui est en cause. C'est le problème de la dérégulation. C'est-à-dire si on est dans un espace régulé, notamment régulé par le droit, l'outil devient extrêmement intéressant. Et j'entends votre auditeur qui explique que ça lui apporte des informations qu'il n'a pas trouvées ailleurs. Et ça, moi, j'entends bien ça, bien évidemment. Et nous aussi, ça peut nous apporter des informations qu'on n'a pas vues ailleurs ou qu'on n'a pas diffusées. Mais le problème qui est posé... Alors nous, on ne demande pas l'interdiction de Twitter. On fait simplement le choix de ne plus y diffuser nos contenus à travers nos comptes. Mais on pense que c'est un outil qui pourrait être un outil fabuleux. Donc c'est pas ça qu'on remet en question, bien évidemment. Donc faut pas jeter
le réseau social avec le Dubin. J'entends bien ce que vous dites, François-Xavier Lefranc. Guillaume est avec nous. Bonsoir, Guillaume.
Allô,
oui,
bonsoir.
On vous écoute.
C'est une première pour moi. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions.
Eh ben, bienvenue, Guillaume. On est content que ce soit une première. Et vous faites un vœu.
Je fais le vœu que Twitter disparaisse, du coup. c'est devenu X.
Allez-y.
Écoutez, je voulais juste réagir par rapport à la question, parce qu'elle suit un petit peu celle que la personne précédente a posée sur le décryptage de l'info, puisque visiblement Twitter, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui va extrêmement vite, en fait. Les informations qu'on reçoit en permanence, on est quand même inondé d'informations chaque jour, et les informations qu'on reçoit, elles ont besoin d'être décryptées, d'être vérifiées, d'être analysées. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu jeté à la foule. Mais surtout, en fait, pour tout vous dire, j'ai assez peu ce réseau-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose... Là, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le quitter, alors... C'était un outil pour les journalistes. Moi, je pensais ça à la base, en fait, que c'était un outil pour les journalistes pour capter des infos, peut-être avant les autres. Mais que fait tout ce monde là-dessus? Enfin, si c'était un outil à la base pour les journalistes, je sais pas, on n'est pas 700 millions de journalistes dans le monde. attendre qu'une info soit décortiquée, soit analysée, que les sources soient vérifiées, enfin, ça me semble extrêmement important, et dans cette rapidité-là,
Vous voyez donc pas l'intérêt ni où ça nous emmène, Guillaume. On a entendu. Merci beaucoup. Vous reviendrez maintenant que vous avez fait votre petite première. Vous pourrez revenir quand vous voudrez. Après, Fabrice Eppelboing, il y a aussi effectivement, il a raison, Guillaume. En fait, il y a aussi toute la résonance qu'on donne sur ce que ça représente en soi. En fait, qu'est-ce qu'on dit que ça représente, hein, si on jouait aux parts de marché comme on le fait par exemple.
En parts de marché, Twitter est un tout petit acteur à côté de Facebook. C'est rien du tout. En puissance politique, c'est totalement central. Tous les journalistes de la planète entière y sont, tous les politiques de la planète entière y sont, tous les gens qui influencent ce petit monde, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs intellectuels, tout le monde y est. Et puis on a tout un tas d'autres dimensions de Twitter qu'on soupçonne pas un instant, parce que vu les 250 millions d'utilisateurs, il y a plein d'usages qui sont. Mais tous les gens qui ont dans les mains les destinées collectives, ils sont tous.
Alors,
ce qui n'est pas le cas de Facebook, ce qui n'est pas le cas d'Instagram, ce qui n'est pas le cas de tous les autres.
Et est-ce que, on a beaucoup de questions comme ça, pourquoi est-ce que ces gens-là ne s'en vont pas, en fait, quitte effectivement à l'immigrer ailleurs? Il y a une auditrice qui cite Marine Tondelier, qui a dit texto, moi je peux pas arrêter Twitter parce que sinon les médias ne viendront plus chercher mes communiqués.
Absolument.
Ça veut dire que désormais, le canal, c'est devenu X.
Mais le canal... Pour Marine Tondelier, pour moi qui passe très régulièrement dans les médias, pour les politiques qui passent aussi très régulièrement dans les médias, pour les médias qui ont besoin de comprendre le monde qui les entoure, pour les chefs d'entreprise qui ont besoin d'échanger des informations, tout ça passe par Twitter.
Ça veut dire que se dire qu'on n'y va plus, ça n'a pas de sens, selon vous ?
Ça fait une quinzaine de fois qu'on a une grande migration de Twitter vers des trucs qui font que les gens vont vers d'autres systèmes, s'aperçoivent... C'est plutôt une bonne expérience, je pense, parce que typiquement, la dernière grande migration, c'était vers Mastodon, qui est un autre, pas très loin de Blue Sky, mais qui est une autre technologie avec une censure qui se passe à un niveau beaucoup plus local. Donc il y a différentes maisons, instances, on appelle ça, qui chacune exerce une censure avec un administrateur qui a droit de vie et de mort sur les contenus qui viennent d'ailleurs. Et du coup, ça a été une expérience sociale très intéressante de voir comment la censure, quand on l'a délocalisée, qu'est-ce que ça donnait. C'était catastrophique, tout le monde est revenu.
Est-ce que François-Xavier Lefranc, là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que le compte Ouest France, il existe toujours, vous ne l'avez pas fait disparaître, vous n'intervenez plus. Est-ce que la raison pour laquelle vous choisissez de ne plus intervenir mais de garder le compte, c'est aussi ça? Parce que sinon, là, pour le coup, désormais que les canaux sont devenus Twitter, vous risqueriez de perdre quelque chose?
Non, alors écoutez, je vais vous dire, moi, sur les réseaux d'information, je pense qu'un journaliste aujourd'hui qui ne peut pas se passer de Twitter a un vrai problème avec le métier. La rédaction de... Nous, on a des centaines de journalistes professionnels, on a des dizaines de correspondants dans le monde entier, on a des tas de réseaux, et on utilise plein de réseaux sociaux d'ailleurs, mais la dépendance à Twitter, ce serait une maladie, à mon avis, assez grave. Mmh. On peut tout à fait se passer de Twitter, même si, effectivement, sur Twitter, il y a plein de faits et de photos, de textes, d'informations qui peuvent circuler, qui sont vraies, qui sont fausses, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Nous, on regarde ce qui se passe sur Twitter, hein. On n'a pas fermé les yeux hier. Ouais. On regarde ce qui se passe sur l'ensemble des réseaux sociaux. On regarde ce qui se passe sur tous les canaux de diffusion d'informations. On a simplement, je rappelle, fait le choix de ne pas mélanger nos contenus avec des insultes, des menaces, des choses qui tombent à jet continu. Et en fait, ce qui fait que c'est un espace qui est complètement abîmé.
Mais j'entends bien la question, c'était pas est-ce que vous ne savez pas aller chercher l'info différemment? C'était désormais, si c'est le canal, ça veut dire que si un communiqué de presse, effectivement, parce que ça va plus vite et que ça atteint tout le monde, parce que tous les médias y sont, passe par l'intermédiaire de Twitter, à un moment, il faut bien voir le dessus.
Il y a même plus un communiqué de presse. Aujourd'hui, les politiques font un tweet. Alors, ils ne font pas un communiqué de presse. Ils font un tweet et c'est commenté au journal.
Et le premier d'ailleurs là-dessus justement, et ça boucle un peu notre boucle, c'est Donald Trump.
Tout le monde,
dont on suivait les Trump et les tweets et dont on se demandait effectivement jusqu'à quel point
Donald
il fallait
Trump était croustillant,
aussi
mais
les
autres font leur communication sur Twitter. Donc c'est vraiment devenu totalement central.
Rester ou partir, certains ont fait choix de partir avec beaucoup de followers, beaucoup de comptes derrière. Bonsoir Salomé Saké.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Blast, Salomé Saké. Vous êtes autrice de Résister aux éditions Payot. Vous êtes partie avec 210 000 abonnés que vous avez laissés. Je cite le nombre parce que c'est une grosse communauté et que surtout, au fond, c'est exactement grâce à ce réseau social que des journalistes comme vous ont pu, à un moment, avoir la parole et aussi entrer dans d'autres médias s'il le faut. Mais ça a commencé par là chez vous. Qu'est-ce qui justifie votre départ à vous? Et encore une fois, est-ce que vous avez mesuré en effet qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne et qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de partir en fait? C'est aussi ça que vous vous êtes dit, Salomé Saké, ou pas?
Bah, effectivement, c'est un gros sacrifice et c'est pour ça que j'ai précisé moi aussi mon nombre d'abonnés en quittant Twitter, parce que c'est des années de travail pour pouvoir construire une communauté de 210 000 personnes qui vous suivent et qui relaient vos contenus. Et c'est comme pour beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, c'est une perte de visibilité qui a un coût professionnel assez important, puisque ça a été dit, il y a tous les médias qui sont directement sur Twitter, et moi, dans mon cas, ça a construit une partie de ma carrière.
Ouais.
D'être sur ce réseau, ça m'a permis d'être invitée dans des médias. J'ai choisi de partir parce que j'avais déjà remarqué cette lente dégradation depuis quelques années, hein, qui nous exposait notamment à des menaces et à des insultes récurrentes, qui étaient de moins en moins modérées. Et quand Elon Musk a racheté ce réseau, là, ça a vraiment été, c'est devenu une catastrophe. Et je l'ai vraiment quitté pour deux raisons. La première raison, c'est une raison qui est politique, c'est que je pense qu'on ne doit pas, et particulièrement en tant que journaliste et en tant que média, entretenir un réseau qui a été structuré désormais par et pour l'extrême droite et qui a pour visée de faire éclore la pensée d'extrême droite, surtout dans la situation politique qu'on connaît aujourd'hui en France et à l'international. Je pense qu'il y a vraiment une question pour moi, qui est presque une question déontologique, de ne pas continuer à donner de l'argent et à enrichir ce réseau-là, de ne pas légitimer ce réseau-là. Et ensuite, il y a une deuxième question qui est une question de sécurité et de santé mentale. Mmh. C'est qu'à titre personnel, j'ai été gravement harcelée sur ce réseau. Ouais. On parle de menaces de mort, de harcèlement, d'insultes, de campagnes de dénigrement organisées de manière quotidienne. Et je ne pouvais pas continuer à m'exprimer sur ce réseau-là. Ou quoi que je dise, de toute façon, j'étais mise au même niveau que beaucoup de fake news.
C'est le sens que j'allais... C'était le sens de ma question. Effectivement, Salomé Saké, c'est un moment... Et quand on arrive à ce niveau-là, et c'est vrai que tous les comptes comme le vôtre, hélas, ont fini, et surtout sur des sujets autour de l'écologie, d'ailleurs, qui peuvent être des sujets sensibles, à la fin, est-ce qu'on finit par se dire, de toute façon, ça sert à rien, parce que vous n'en retirez plus rien. En fait, il y a plus... Depuis combien de temps n'avez-vous pas dialogué, au fond, avec quelqu'un sur Twitter?
Bah, Moi, ma bataille, c'est celle de l'information. Notre objectif en tant que journaliste, c'est d'informer les gens et de diffuser l'information au maximum, au plus de gens possible. Et dans ce contexte-là, c'était rendu très difficile. Je dis pas que c'était impossible, parce que je pense qu'on touche toujours des personnes, mais ce qui est rendu très très compliqué, c'est qu'on ne discute plus des faits. On n'est pas en désaccord sur des stratégies ou sur des interprétations. Sur Twitter, on est en désaccord sur l'existence des faits même, avec notamment des campagnes de climato-scepticisme très très organisées, et même de parfois de personnes qui nous disaient que la Terre était plate, de vraiment beaucoup de théories du complot. Donc comment peut-on discuter dans ce contexte-là? Et c'est vrai que c'était rendu extrêmement compliqué.
Est-ce que du coup vous migrez, parce que vous avez toujours besoin de ce canal-là, Salomé Sacquet, donc vous migrez vers Blue Sky, je sais pas, vers Thread, vers Mastodon, est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro, ou est-ce que vous dites je peux faire sans? Vous en êtes où là?
Moi, je repars à zéro sur d'autres réseaux que je vais tester. Donc, je me suis mise sur Thread, sur Blue Sky, et j'avais déjà un réseau sur Instagram et sur TikTok. Donc, j'essaie d'investir tous ces différents réseaux, encore une fois, dans cette optique de transmettre au maximum l'information. Mais je sais que c'est risqué, que je retrouverai pas complètement cette communauté. Et c'est un sacrifice personnel, c'est un sacrifice professionnel pour moi. Et j'espère pouvoir changer, participer avec un grand mouvement, peut-être à changer le cours des choses. Il faut rappeler quand même qu'Internet, c'est de perpétuels changements qu'on a tendance à oublier. Il y a eu des époques entières qui ont été structurées autour de MSN, autour de Skyblog, autour de MySpace, des choses qu'on a oubliées, qui ont disparu, qui se sont renouvelées. On n'est pas voué à rester sur des réseaux qui sont façonnés par l'extrême droite. On peut changer les choses, et pour ça, ça passe par des mouvements de masse qui sont initiés à certains moments. Donc, ça a été dit, il y a eu plusieurs vagues, effectivement, de personnes qui ont quitté Twitter. Moi, j'en ai jamais vu quand même des aussi importantes, et surtout, on n'était pas à ce moment où, je rappelle, hein, c'est un changement très récent, c'est qu'on peut même plus bloquer des gens. C'est-à-dire que des personnes qui vont vous harceler, qui vont vous insulter.
Ah bon ?
Oui, c'est un changement qu'a opéré Elon Musk. Il a désactivé la fonction blocage, au sens où vous pouvez bloquer, mais vous pouvez encore être vu. C'est-à-dire qu'on peut faire des captures d'écran de vos tweets,
ouais,
et rediffuser avec des messages malveillants. C'est le seul réseau qui fait ça.
D'accord.
Et ça a tellement changé que je pense que même ne serait-ce que pour des questions de santé mentale, toute personne qui veut vraiment diffuser l'information va devoir soit ne plus jamais discuter et avoir une vraie attitude en fait sur le réseau, c'est-à-dire de vraiment avoir une activité, soit va devoir partir.
Ouais. Moi, j'avoue, j'ai repris la clope sur une shitstorm. Je vous le dis franchement, parce qu'à un moment, quand ça part, c'est extrêmement compliqué. Salomé Sacquet, je vous remercie beaucoup. Elle a raison, Salomé Sacquet, Fabrice Epelboin, quand elle dit que on oublie, on a la mémoire courte. Mais à un moment, c'était les blogs qui allaient tout changer, et tout le monde avait un blog, et puis ça a disparu. À un moment,
Les politiques, journalistes. C'était l'enfance d'Internet, à une époque où tout ça était des choses qui étaient considérées avec un mépris total de la part de l'élite, qui était réservée aux enfants. Souvenez-vous de la façon dont on parlait de Facebook jusqu'au printemps, mais même après le printemps arabe, c'était bon pour des enfants, c'était pas sérieux. On a attendu 2015-2016 avant de prendre les réseaux sociaux sérieusement. Et à partir de là, effectivement, le système s'est cristallisé sur Twitter pour une multitude de raisons. Qui tiennent aussi bien à l'architecture de la façon dont c'est fait, à son domaine et son caractère public, ouais. Contrairement à tout un tas d'autres.
Mais il y a eu quand même aussi le moment Musk. Je vous pose la question
sûr.
Parce que quand il achète 44 milliards, dont on sait très bien qu'il ne vaut absolument pas 44 milliards.
Aujourd'hui, vous êtes vraiment sûr que ça vaut
aujourd'hui,
pas 44
milliards? Aujourd'hui, non, mais au moment où il l'achète, certainement pas.
De toute évidence, il avait une idée en tête.
Ouais, non, mais c'est exactement
parce
ce que j'allais vous dire.
Aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que ce prix est parfaitement justifié.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'était l'idée en tête. C'était ce que je peux faire de l'outil.
C'était
et on a bien
idées,
vu.
C'est de ne pas prendre cet individu pour un idiot.
Ah, ça c'est sûr, ouais. Et Salomé Sacquet a raison quand elle dit qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont disparu. Il y a le fameux onglet pour vous que vous voyez désormais et là.
Il a toujours été là.
Ah oui, non.
Il y a une incompréhension des fonctions de base.
L'onglet pour vous, pardon, il n'a pas toujours été là. Un onglet abonnement, un onglet pour vous, ça n'a pas toujours été là.
Non, avant, il n'y avait pas l'onglet abonnement. La différence est la suivante. Le DSA a imposé, et Elon Musk était totalement d'accord avec le DSA, qui plus est, Trump compte le reprendre en large partie. Le DSA a imposé la possibilité de débrayer l'algorithme, c'est-à-dire de ne plus subir l'algorithme, mais de pouvoir avoir un flux qui ne soit pas trié. C'était une excellente initiative qui n'a pas été mis en place par Facebook, mais qui par contre a été immédiatement mis en place. C'est une des premières fonctions qu'a mis en place Twitter. Du jour au lendemain, vous êtes passé d'un flux normal, qui était le flux de l'algorithme, à ce choix entre pour vous, c'est-à-dire l'algorithme, et abonnement. C'est-à-dire un filtre brut, sans aucun tri.
Ouais, mais justement, le
c'est le seul réseau social qui vous permet de débrayer cet algorithme.
Ouais. Sauf que le pour vous, pardon. Mais
le
moi,
pour
je
vous,
pas...
c'est l'algorithme. Vous pouvez le débrayer à tout moment en cliquant sur l'onglet abonnement. Sur Facebook, sur Instagram, vous n'avez pas cette possibilité-là.
Donc ça veut dire que...
Ça veut dire que Twitter a été le seul à appliquer au pied de la lettre une mesure fondamentale du DSA qui est la possibilité de sortir de l'algorithme
pardon,
de
mais
façon
quand Twitter,
simple et ergonomique.
Quand Elon Musk dit lui-même, il le dit pendant la campagne, et notamment parce qu'il a été vexé d'un tweet de Joe Biden qui a été plus retweeté que le sien, qu'il demande à ses ingénieurs de modifier l'algorithme pour que ce soit ses tweets à lui
qui montent. Ça s'appelle du trolling.
Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'il sait aller chercher l'algorithme.
Mais l'algorithme est public. Il a été publié. Il y a beaucoup de choses à reprocher à Elon Musk. Le problème, c'est que il faut vraiment regarder les faits. L'algorithme est public. Il est publié sur GitHub, qui est un répertoire international de code libre. Vous pouvez regarder le code de l'algorithme. Il est régulièrement commenté et chaque fois qu'il y a le moindre changement, il y a des nuées de développeurs informatiques qui commentent les changements du code. Vous pouvez voir comment un message est augmenté, pourquoi, qu'est-ce qui le fait augmenter. Tout ça est public. C'est le seul, encore une fois, réseau social qui permet d'avoir accès au code et de l'auditer. Et il y a des milliers, millions de personnes.
Oui, mais qu'est-ce que ça change pour moi, pardon, qui voit popper Elon Musk tous les 4 matins sur mon compte?
Ben, c'est que concrètement, contrairement à Facebook ou à Instagram, vous pouvez avoir les moyens de comprendre comment ça fonctionne.
Je comprends, mais
et
je suis
si Elon Musk pop en permanence, non seulement sur Twitter, mais partout en ce moment, c'est tout simplement qu'il occupe un territoire médiatique phénoménal, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. Twitter ne fait que refléter le fait qu'effectivement il a pris une importance qui est totalement disproportionnée dans nos vies politiques. Il va falloir s'y faire. Il a, pour le dire de façon courte et violente, acheté cette campagne. Ouais. Il est désormais une espèce de... Alors, il n'est pas vice-président, il est best buddy. C'est-à-dire qu'il va remplacer un peu le rôle de la première dame à l'époque où elles avaient du pouvoir, comme à l'époque d'Hillary Clinton. Et il va avoir un poids considérable sur l'avenir des États-Unis. Et très clairement, il a fait ça avec un investissement de 44 milliards de dollars, ce qui est finalement assez modeste.
Michael est avec nous. Bonsoir, Michael.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, à chaque fois qu'on cherche des articles sur les alternatives à Twitter, on tombe souvent, les journalistes, j'ai l'impression, vont souvent nous donner la référence à Blue Sky. Et je voulais dire que personnellement, je trouve pas que ce soit une bonne idée de quitter une grosse entreprise américaine pour rejoindre un autre réseau social qui dépend, elle aussi, d'une grosse entreprise américaine. D'autant plus que si vous cherchez les infos, Blue Sky, ça n'est ni plus ni moins qu'une émanation de Twitter. Ça a été créé par l'équipe, l'ancienne équipe de Twitter.
Jack Dorsey, ouais.
Voilà, du coup, je me dis que si Twitter part en vrille, qu'est-ce qui empêcherait Blue Sky de partir en vrille aussi à un moment donné? Et pour ma part, j'ai plutôt fait le choix de Mastodon. Je suis pas très d'accord avec votre intervenant précédent qui disait que la censure marchait pas sur Mastodon. Au contraire,
si elle marche.
Pour moi, c'est un havre de paix. C'est l'impression de rentrer dans un café littéraire après avoir fréquenté une tribune de hooligans. et je ne peux conseiller qu'à tout le monde d'essayer et de venir sur Mastodon. Mastodon, c'est classé par ordre chronologique. C'est pas un algorithme qui décide pour vous ce qui est mieux pour vous. En plus de ça, il n'y a pas de pub. Enfin, il y a plein d'avantages à rejoindre ce réseau social-là.
Et il y a des journaux sur Mastodon, parce que j'allais demander à François-Xavier Lefranc si.
Alors, il n'y a pas des journaux. Il y a des journalistes surtout, notamment.
Il y a les jours. Le glisson dans l'oreille, ouais.
Il y a le code a changé. Non, c'est pas Xavier Delaporte.
Si.
C'est Xavier Delaporte. Eh bien, il a rejoint Mastodon lui aussi.
François-Xavier Lefranc, vous, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui à Ouest France, en fait, comment on regarde?
Il y a plein de réseaux intéressants, ouais. Il y a plein de nouveaux réseaux qui sont intéressants, et on regarde ça avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Je pense à un réseau dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Quai, ce qui est un réseau français, celui-là, qui essaie de creuser son sillon, et je suis persuadé qu'il y aura assez rapidement des réseaux, on en a cité un certain nombre, mais qui ont véritablement beaucoup d'intérêt, et où le citoyen peut trouver un espace d'intelligence, de réflexion, d'information, de diffusion d'informations. Donc moi, je suis pas pessimiste du tout. Je pense faut simplement s'intéresser à autre chose. Se désintéresser de Twitter, ça fait un bien fou parce que ça permet de s'intéresser à autre chose. Et il y a plein d'autres choses.
Ça repose, hein. François-Xavier Lefranc.
Oui.
Fabrice Eppelmoin, vous êtes vous sur Twitter ou pas?
Oui, bien sûr.
Mais et alors vous dites bien sûr parce que c'est votre boulot? ou parce que désormais c'est indispensable?
Parce que c'est mon boulot, parce que c'est indispensable, parce que c'est la seule façon de comprendre la marche du monde, et pour comprendre la marche du monde, il faut regarder dans des endroits où effectivement ça pue. Et je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas envie de le faire, mais comment voulez-vous comprendre le monde sans comprendre Trump et Elon Musk de nos jours? C'est impossible.
Et c'est un argument, merci beaucoup, merci à tous les deux, à tous les trois, et à tous ceux qui ont participé à cette émission. La question des petits bateaux, c'est celle d'Augustine, elle a 7 ans.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Adrabe una cosa, ding e ding.
Non è
tanto. Écoutez la planète chanter.
L'idole de beaucoup de francophones est en tournée au Québec pour célébrer ses 60 ans de carrière. À 85 ans, Enrico Macias, chanteur français d'origine algérienne, est de passage dans la belle province. On aura un extrait d'un entretien accordé à Radio-Canada.
Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. On vous doit la vie, on vous doit nos joies et notre premier sourire. Et lorsqu'on a peur, quand on est petit, on se réfugie contre votre cœur. Vous nous consolez chaque fois en nous berçant dans vos bras. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez remerciées. Vous êtes pour nous notre premier rêve, que l'on cueille sur vos lèvres. Vous êtes toujours beaucoup trop jolie, vous êtes l'amour ou bien la folie. Vous peignez en noir ou en bleu, l'arc-en-ciel de notre vie. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez remerciées. Quand nous arrivons au bout du chemin, on retrouve votre main. Dans vos yeux fidèles, on voit le reflet, on voit le portrait de ce qu'on était. Et c'est grâce à vous qu'on est sûr d'avoir vraiment existé. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez remerciées. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez remerciées. Vous les femmes, la 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 la. Vous les femmes, la 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 la. Vous les femmes, la 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 la. Vous les femmes, on vous doit la vie, on vous doit nos joies et notre premier sourire. Et lorsqu'on a peur, quand on est petit, on se réfugie contre votre cœur. Vous nous consolez chaque fois en nous berçant dans vos bras. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez remerciées. Vous êtes pour nous notre premier rêve, que l'on cueille sur vos lèvres. Vous êtes toujours beaucoup trop jolie, vous êtes l'amour ou bien la folie. Vous peignez en noir ou en bleu, l'arc-en-ciel de notre vie. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos heures. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter.
vous les femmes, simplement soyez remerciés. Quand nous arrivons au bout du chemin, on retrouve votre main. Dans vos yeux fidèles, on voit le reflet, on voit le portrait de ce qu'on était. Et c'est grâce à vous qu'on est sûr d'avoir vraiment existé. Vous les femmes, vous pensez avec le cœur. Vous les femmes, vous embellissez nos airs. Vous les femmes, vous donnez tout sans compter. Vous les femmes, simplement soyez
remerciés. RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Bonjour, comment vas-tu ? Je vais établir la communication avec le Papa Noël directement du pôle Nord. Je demande d'abord au chef des lutins s'il est disponible. Il semble que oui, génial. Je te le passe.
Bonjour les enfants. Alors j'ai eu ton papa et ta maman qui m'ont raconté que tu n'écoutais pas beaucoup en ce moment. J'ai demandé à mes lutins et je suis désolé, mais pour le moment tu es sur la liste des enfants passage. Mais je te fais confiance, je pense sincèrement que tu peux changer tout ça. Une seule chose à faire, écouter ses parents. Ne pas faire de bêtises et tout ira mieux. Allez, je te fais confiance et je viendrai vérifier dans quelques jours si tout est rentré dans l'ordre et si tu es enfin revenu sur la liste des enfants sages. Allez, porte-toi bien plus que quelques jours avant Noël. Ah, et j'allais oublier. N'oublie pas le soir de Noël de mettre des petits gâteaux pour mes reines et moi, voire des petits chocolats, mais ça c'est que pour moi. À bientôt et joyeux Noël.
Côte d'Or, pour un Noël plus étincelant, plus généreux, plus intense. Découvrez Côte d'Or encore. Noisette entière, ganache fondante, chocolat croquant. Côte d'Or encore, à partager encore et encore. Côte d'Or, le plaisir des fêtes à l'état brut.
À la maison, en voiture, à la plage, dans les transports, le matin ou le soir, avec Radio Player France, vos radios, vos émissions, vos musiques sont toujours avec vous. Radio Player France, 220 radios, 600 web radios et plus de 120 000 podcasts en une seule application. Téléchargez gratuitement l'appli Radio Player France.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarii. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Merci d'avoir choisi Popourri Show, CUT 89,5 FM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair. Je tiens à remercier infiniment ceux et celles qui ont contribué au succès de notre campagne de financement automnal. Grâce à vous, nous avons amplement dépassé l'objectif fixé, soit 120 000 dollars. Un immense merci au restaurant Bistro Entreprise qui nous ont offert des cartes cadeaux et des dons en argent. Chaque semaine, je ferai un tirage au sort. Si vous avez fait un don à Popourri Show, alors veuillez m'envoyer votre adresse courriel et votre adresse postale. Au cas, vous êtes parmi nos gagnants. Pour toute question concernant votre reçu pour l'impôt, veuillez m'écrire directement à popourri@cut.fm. Merci de nous faire confiance. Les buzz de la semaine. Quelle semaine ! On dirait que j'étais dans un rouleau compresseur. C'est tout un séisme qui secoue la scène politique canadienne. Alors qu'il n'est même pas assis sur son trône, à la Maison-Blanche, Donald Trump a vu imposer des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits importés du Canada et du Mexique, ce qui pourrait entraîner la perte de dizaines de milliers d'emplois au pays. Des entreprises d'ici sur le qui-vive. On reprendra d'ailleurs, avant la fin de cette émission, un extrait des analyses de Chantal Hébert, journaliste et collaboratrice à Radio-Canada. Trêve avec le Hezbollah. Nos amis auditeurs d'origine libanaise, d'ailleurs ils sont nombreux à l'écoute, sont soulagés mais peu confiants dans une trêve à long terme. L'avenir nous dira ce qu'en vaut ce coup de dé de Joe Biden à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche. En France, l'heure est grave. Le Premier ministre français Michel Barnier a estimé mardi sur TF1 que le moment était très grave sur le plan budgétaire et il a mis en garde contre les turbulences graves sur les marchés financiers en cas de censure de son gouvernement. Anne Hidalgo jette l'éponge, elle ne sera pas la mairesse de Paris pour toujours. Et oui, elle a décidé de ne pas briguer un troisième mandat et déjà confié sa relève au sénateur PS Rémi Féraud, déclenchant une guerre de succession au sein de la gauche parisienne. Soulagement chez beaucoup de Parisiens. De Franco-Presse au Canada, 35% des immigrants francophones qui quittent le Canada dans les 5 ans suivant leur arrivée. Et oui, fait valoir le rapport d'études du Conference Board of Canada, publié par l'Institut pour la citoyenneté canadienne. C'était quoi, le 15 novembre dernier. C'est un rapport que beaucoup d'organismes francophones ne veulent pas voir, et oui, de peur de perdre leurs subventions. Sujet très important à mon avis. La baisse des taux de délivrance de résidence permanente, le projet pilote pour les étudiants internationaux, francophones, d'ailleurs qui a un impact direct sur les admissions dans les collèges et universités francophones, on l'a vu cette semaine au collège Sheridan, et oui, le projet pilote pour les communautés francophones accueillantes, etc. Tant d'initiatives qui ont connu un échec total sur tous les fronts. Question, quel avenir pour le monde de l'éducation dans le milieu francophone au Canada ? Qu'en pensent les professeurs dans nos universités et les collèges en Ontario ? Écrivez-moi popourri@cut.fm. On pourrait aussi parler de la pénurie d'enseignants dans les écoles francophones et surtout au Québec. Il y a plus de 4000 enseignants qui manquent à l'appel. Toujours dans le monde de l'éducation, le militant franco-ontarien Basile Dorion, ex-conseiller scolaire qui s'était fait connaître lors de la crise scolaire de 1979 à Penetanguishene, estime que la situation des élèves anglophones dans les écoles francophones de la province a empiré au cours des années et se dit toujours prêt à poursuivre devant les tribunaux, les conseils scolaires. Et oui, il dit, et je cite, « On force les conseils scolaires à se prostituer ». Et oui, article à retrouver sur la plateforme numérique de ONFR-TFO. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette édition 2024 est « Suivons le chemin des droits ». Cette journée est l'occasion de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et de mémoire aux victimes de maladies liées au sida. Selon l'ONU-SIDA, le nombre de contaminations recule dans le monde. On en fait le point avant la fin de cette heure avec France 24 et RFI. Et ne manquez pas les nouveautés littéraires de la communication et les éditions prises de parole, des vrais petits bijoux, des bons petits cadeaux à offrir à vos proches, à ceux que vous aimez, à retrouver sur notre site web popourrichaud.com. Et enfin, je veux prendre quelques petites secondes pour présenter toute ma gratitude aux nombreuses personnes et amis de la radio qui ont manifesté leur attachement à la seule émission en langue française sur CUT 89,5 FM de Hamilton, Montréal, Toronto, l'île Maurice, Haïti, Québec, Ottawa, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Boston, Washington, Vietnam, Tokyo. Merci du fond du cœur. Votre aide est essentielle pour notre succès. En 5 jours seulement, nous avons dépassé notre objectif de 100 000 $. Un immense merci à tous les bistrots, Cinéplex, Cinéfranco, Le Créfaux, Sophie Franc, Le Kepka et moi du Créole à Montréal, à Françoise Raffougeux, Jean-Jules Benoît, Peggy Lampotam, Art, à Winston, Adèle, Cathy, professeur et poète, Eddie Bouraoui et j'en passe, mille merci. Les tirages sortent, mon bon train, et j'ai plusieurs invitations VIP pour une soirée anniversaire le lundi 9 décembre au restaurant Local 1794, rue Danforth, un petit bistrot très chic, très convivial, un menu très sain et des desserts tels que le gâteau aux carottes, un de mes desserts préférés. Le 9 décembre, dès 17h, cocktail et repas pour le 10e anniversaire de Local 1794 sur la rue Danforth. Vous avez fait un don, et oui, vous souhaitez être parmi nos invités VIP, alors écrivez-moi à popourri@cut.fm. Le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24. Bon appétit si vous êtes à table. Merci d'être fidèle à Popourri Show et CUT FM.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33. Sur RFI.
Heures ici à Paris, il est 8h à Port-au-Prince.
RFI Midi. Nemo en piste.
Dans une petite minute, le journal de Karine Bellicha, suivi d'une vingtaine de minutes consacrées à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Nous sommes en Équateur, pays qui depuis 2 mois n'a pas connu un jour sans coupure d'électricité. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État, des faits qui remontent à la fin de l'année 2022. Le journal des Outre-mer également, avec Alex Léveillé. Alex, nous sommes en Martinique pour parler de déchetterie fermée et du budget de la collectivité territoriale.
Effectivement, tout cela sera développé dans quelques instants.
À tout à l'heure, Alex, et puis direction Port-au-Prince, en ligne avec le directeur de l'hôpital universitaire de la paix, mais tout de suite le journal.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Direction Haïti, justement, où la capitale Port-au-Prince connaît une nouvelle flambée de violence. La prise du quartier de Solino il y a 6 semaines et une incursion dans la zone jusqu'ici préservée de Piétonville par les gangs armés ont poussé les Nations Unies et les chancelleries occidentales à réduire leur présence sur place. Ces mêmes groupes qui ont profité du changement de Premier ministre pour intensifier leurs opérations criminelles, pas moins de 40 000 déplacés en 10 jours selon l'Organisation internationale pour les migrations. Témoignage du docteur Jean-Philippe Lebourg, directeur de l'hôpital universitaire de la paix. À l'heure où le système de santé haïtien est sous pression maximale, Vincent Souriau l'a interrogé sur les répercussions de cette violence accrue.
La première conséquence, c'est l'afflux de patients, parce que l'hôpital n'est pas extensible. On a un hôpital de 210 lits, il y avait des soins qui étaient prévus pour ces 210 lits. Mais aujourd'hui, on se retrouve justement avec une occupation de lits de manière constante qui frise les 105 à 110%. C'est un petit peu compliqué, les lits sont toujours occupés, particulièrement à la maternité, dans les services chirurgicaux et aux urgences. La pédiatrie est aussi toujours occupée. Vu le stress qu'il y a, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des ACV et qui ont des problèmes de diabète. C'est-à-dire que, mis à part la traumato, il y a d'autres problèmes qui sont tout aussi urgents et qui viennent nous trouver.
Quand vous parlez de traumatologie, ça veut dire que vous accueillez aussi beaucoup de blessés par balle?
Des blessés par balle, des accidents de la voie publique, parce que aussi les gens se déplacent beaucoup. On se déplace beaucoup à moto et on se déplace n'importe comment, très vite pour fuir et la violence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. C'était déjà un problème avant à cause des codes de la route qui ne sont pas respectés. Mais aujourd'hui, c'est encore plus criant. Sans compter effectivement les plaies par balles, les plaies par arme blanche. Et ça, c'est, on va dire que c'est plus ou moins monnaie courante. Si je prends les chiffres des 10 derniers jours, ça fait aux alentours de 89 plaies par balles qui arrivent à l'hôpital. Sans compter les plaies par arme blanche et les cas de traumato, d'accidents de la voie publique.
Donc vous êtes en surcapacité, l'hôpital est plein. Est-ce que vous avez assez de moyens et assez de personnel pour travailler?
Il y avait déjà des problèmes de ressources et de personnel déjà dans le système. Et avec le phénomène Biden et puis le départ de personnes qualifiées, on a perdu à peu près 27% de notre personnel. Ce qui veut dire que la situation s'est encore détériorée. Ce qui veut dire que le travail qui doit être fait peut-être par deux personnes est fait par une seule personne. Donc ça veut dire que le personnel déjà travaille, ils ont des heures à rallonge et ils ont aussi une charge de travail qui est beaucoup plus élevé.
Vous êtes situé à Delma 33 dans le centre de Port-au-Prince. Vous êtes le seul hôpital qui fonctionne dans cette zone. Si jamais vous êtes dans l'obligation d'envoyer des patients ailleurs, des pathologies complexes qui ont besoin de soins très précis par exemple, comment vous faites ?
Pour l'instant, il n'y a pas cette possibilité. Dans le secteur public, et on n'a pas cette possibilité. Il y a cette possibilité peut-être, et si quelqu'un vient, et si la personne veut avoir les premiers soins, ensuite aller dans le privé, et la personne peut le faire. Et même là encore, c'est un petit peu difficile. Les cas de neurochirurgie, on les transférait en général à Bernard Mulz. Et c'est une structure qui n'est pas trop loin de nous, mais qui a dû fermer et, ou bien suspendre momentanément ses activités à cause de la violence dans leur zone. Ce qui veut dire que si quelqu'un reçoit une balle et au niveau de la tête et a besoin de neurochirurgie, c'est pas une mince affaire, c'est José.
On sait que MSF, Médecins Sans Frontières, a suspendu ses opérations il y a une semaine. MSF ne prend plus de patients dans aucun de ses 5 centres d'urgence. Est-ce que la présence de ces organisations internationales soulageait votre travail d'une manière ou d'une autre et qu'est-ce que ça implique pour vous?
Bon, absolument, parce que dans l'offre de soins, et MSF prenait une quantité de patients, justement, et qui prenaient et des fois les premiers soins chez eux. Dans certains cas, ils nous référaient les cas et qui n'étaient pas dans leurs critères, mais au moins, et les gens recevaient les soins et à MSF. Mais aujourd'hui, si MSF ferme, déjà que j'avais un problème, la quantité que je recevais était déjà énorme. Donc maintenant, ajouter à ce que MSF ne pourra pas voir, en termes de tableau, c'est un tableau extrêmement inquiétant et alarmant. On attend, mais on sait que ça va être extrêmement difficile de tenir dans ces conditions.
Il y a aussi tout le volet du suivi médical. Jean-Philippe Lerbourg, après les opérations, il y a la rééducation, l'accompagnement, le traitement. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les longues maladies. Est-ce que vous avez encore de quoi suivre en termes de matériel et de médicaments?
Pour l'instant, l'hôpital avait un plan de contingence qui avait été mis en place par l'hôpital en partenariat avec le ministère de la Santé publique, ou bien l'UNICEF, ou bien l'UNFP, ou bien le CICR intervenait pour nous aider à avoir un stock, pour nous aider à avoir des primes de risque et pour nous aider à avoir des médicaments. Donc, de ce côté-là, on peut essayer de voir venir pendant un certain temps. Mais ce sera pas long parce que là, on sait que les ports sont fermés et l'aéroport particulièrement est fermé. Donc, ce qui veut dire que là, on est en plein dans notre plan de contingence. Mais un plan de contingence, c'est pas quelque chose d'indéfini. Si effectivement l'aéroport ne s'ouvre pas, on va avoir des problèmes.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Lerbourg.
Le docteur Jean-Philippe Lerbourg, directeur de l'hôpital universitaire de la paix à Port-au-Prince, joint par Vincent Souriau. Et puis cette information, Dany Laferrière, académicien et écrivain, né dans la capitale haïtienne et de nationalité canadienne, aura bientôt son visage sur des timbres postes au Canada, des timbres qui seront dévoilés ce mercredi à l'ouverture du Salon du Livre de Montréal. 4 autres figures de la littérature franco-canadienne sont également concernées. Objectif, célébrer des plumes primées qui inspirent les gens au Canada et ailleurs.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des territoires français de l'océan Indien. Rebonjour Alex Léveillé.
Bonjour.
On prend la direction de la Martinique, où il est impossible de trouver une déchetterie ouverte.
Et oui, plusieurs d'entre elles sont fermées en cause des décharges sauvages qui empêchent les camions de passer ou tout simplement d'ouvrir les portes et les usagers, eux, sont à bout. Xavier Chevalier de Martinique, la première.
Les décharges sauvages se multiplient, la faute, entre autres, à des déchetteries pour la plupart fermées. Lucas, qui travaille dans le tourisme, est énervé. Le jeune homme a loué un camion pour la journée et fait un grand ménage. Il a plus de 500 kilos à jeter.
chaque fois qu'on va à la déchetterie, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est ouvert déjà? Ok. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y aura une benne? Est-ce que les gens vont bien nous accueillir? On arrive, il y a toujours 10 mecs assis. Bon, ok, ils nous accueillent. Bon, ils font leur boulot quand même. Mais aujourd'hui, là, on est confronté à un problème récurrent en Martinique. Et il y a aucune solution. On nous a dit d'aller à Sainte-Luce. Sainte-Luce, finalement, c'est barré. On nous a dit d'aller au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est mort. On nous a dit d'aller au François. François, c'est mort. Châteaubœuf, cette déchetterie-là ne prend jamais rien. Enfin bon, wow.
La déchetterie de Céron est temporairement la faute à une montagne de déchets déversés devant le site. Au Robert et au Saint-Esprit, les agents sont présents, mais personne ne peut rentrer. Des encombrants sont présents sur la route du SMTVD, rendant difficile, presque impossible, la circulation des camions. Manuel Vadius, directeur.
Sur place des équipements, donc on voit un petit peu avec les différents services pour pouvoir mettre en œuvre les moyens pour pouvoir évacuer ces dépôts sauvages. Malheureusement, c'est quand même un peu déplorable qu'on arrive à ce point alors qu'il y a des sites qui sont ouverts et pour pouvoir justement traiter et valoriser les déchets.
La situation devrait s'améliorer, d'après le SMTVD, d'ici le début de la semaine prochaine. Mais aucun des usagers n'y croit.
Xavier Chevalier de Martinique, la première. Il sera compliqué pour la collectivité territoriale de la Martinique de boucler le budget en 2025. La CTM n'aurait pas reçu les subventions qu'elle réclame à l'État. Elle pourrait ainsi saisir la justice. Le conseiller exécutif en charge des finances et de la commande publique, Arnaud-René Couraille.
La rigueur budgétaire est nécessaire. C'est valable, je dirais, pour l'ensemble des collectivités de Martinique. Il faut s'y mettre, regarder ce qui se passe au niveau de l'État. Aurions-nous toutes les recettes, tout ce que nous voulions recevoir de l'État? Pas sûr. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention parce que nous allons dans le mur. Nous continuons à faire des investissements. Il y aura de gros travaux de près de 30 millions de dépensés en 2025-2026 sur un pont qui va se faire à l'entrée de Mongouville-Saint. J'ai attribué les marchés la semaine dernière. Donc ça veut dire que les investissements auront lieu dans notre pays. Maintenant, il faut savoir juger à quel moment, comment faire, les sommes qui manquent à la collectivité. Si l'État ne nous aide pas, c'est comme pour l'eau, si l'État ne nous aide pas à couvrir ces dépenses obligatoires, particulièrement les dépenses sociales, nous aurons de plus en plus de difficultés, nous allons dans le mur. Quand le président dit, soit nous allons faire un procès à l'État pour nous verser la différence, monsieur l'État, sachez qu'il manque 150 millions.
Arnaud-René Couraille, conseiller exécutif en charge des finances et de la commande publique, était au micro de Bertrand Caruge de Martinique, la première. Merci à Bruno Dessommes pour la mise en onde et à Samuel Piqueur aussi. Excellente fin de journée à tous.
Le journal des Outre-mer, Alex Léveillé. Excellente journée, Alex. 14h29 ici à Paris. C'est la fin d'RFI Midi. Merci à Valentin Blanc à la réalisation, à Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Demain, vous retrouvez Claude Clotilde Dumay pour une nouvelle édition d'RFI Midi. Dans 30 secondes sur RFI de vive voix, merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde.
Le festival 4 chemins, le plus grand festival des arts vivants en Haïti, fête ses 21 ans du 25 novembre au 7 décembre à Port-au-Prince sur la thématique Non masque et mascarade pour défendre la jeunesse haïtienne. Au programme, création théâtrale et chorégraphique, projections, conférences et café poésie. Le festival 4 chemins du 25 novembre au 7 décembre. Plus d'informations sur festival4chemins.com en partenariat avec RFI.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales, mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à Kepka et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Vous êtes Zouk, vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Oula, cette femme, qu'elle est capricieuse. Quand elle décide vraiment de faire sa life, elle prend son téléphone. Si c'est pas sur Facebook, si c'est pas sur WhatsApp. Et quand elle croit en elle, elle fait sa Babylon Live. Sur Messenger, elle raconte à sa vie, à sa petite amie. Elle se fend des confidences. Elle a les jus de cœur, un peu plus de romance. Et quand je lui écris, elle me lâche des vues. Elle me lâche des vents en disant ce fameux vent glacial. Je me demande avec qui elle chat.
D'avoir choisi Popourri Show, CUT 89,5 FM, votre magazine de la francophonie. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader. Je tiens à remercier infiniment ceux et celles qui ont contribué au succès de notre campagne de financement automnale. Grâce à vous, nous avons amplement dépassé l'objectif fixé, soit 120 000 dollars. Un immense merci aux restaurants Bistro Entreprise qui nous ont offert des cartes cadeaux et des dons en argent. Chaque semaine, je ferai un tirage au sort. Si vous avez fait un don à Popourri Chaud, alors veuillez m'envoyer votre adresse courriel et votre adresse postale au cas vous êtes parmi nos gagnants. Pour toute question concernant votre reçu pour l'impôt, veuillez m'écrire directement à popourri@cut.fm. Merci de nous faire confiance.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
La journée mondiale du sida. La journée mondiale du sida qui se tient le 1er décembre marque aussi le début de la semaine autochtone de sensibilisation au sida au Canada. Un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida et sur ce qu'il nous reste à accomplir. Le Canada est-il prêt d'atteindre les cibles mondiales en fait de dépistage et de traitement du VIH? La lutte contre le VIH et le sida progresse, même si la fin de l'épidémie reste lointaine, si la situation s'améliore en Afrique subsaharienne, les infections augmentent, en revanche, en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre. Et le thème de cette année, suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits. L'OMS appelle les dirigeants et les citoyens du monde entier à défendre le droit à la santé en s'attaquant aux inégalités qui entravent les progrès vers l'élimination du sida. VIH-SIDA. Le nombre de contaminations recule dans le monde selon l'ONU-SIDA. Reportage Anne Le Gall. France Info.
France Info. On évoquait tout à l'heure le SIDAction et la journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre, dimanche prochain. Et c'est un chiffre, Anne, encourageant. Les infections et les décès liés au VIH continuent de reculer dans le monde. Ils viennent même d'atteindre un niveau historiquement bas.
Oui, selon l'ONU SIDA, autour d'1,3 million de personnes ont été infectées par le VIH l'année dernière. 630 000 personnes en sont mortes. Ça signifie que les nouvelles infections ont diminué de 60% depuis le pic de l'épidémie en 1995. Ces chiffres s'explique par la prévention et le recours aux traitements de dernière génération.
Effectivement, les traitements permettent aujourd'hui de vivre avec le VIH.
Exactement, alors que dans les années 80, un diagnostic de VIH correspondait à un risque de décès rapide dans 85% des cas. Aujourd'hui, les patients peuvent vivre avec le virus grâce à l'amélioration des traitements antirétroviraux et les contaminations reculent aussi grâce au développement des PrEP, les traitements préventifs. Malheureusement, ces progrès thérapeutiques ne sont pas partagés partout. Un quart des personnes contaminées n'ont toujours pas accès au traitement dans le monde. Et alors que la situation s'améliore en Afrique subsaharienne, les infections remontent en revanche en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient par exemple. Au total, 28 pays ont vu leur contamination au VIH augmenter l'année dernière dans le monde. Ce qui fait que le pari de l'ONU d'éradiquer l'épidémie d'ici à 2030 n'est pas encore gagné.
Et qu'en est-il en France ?
Chez nous, 5500 personnes ont découvert l'année dernière qu'elles étaient porteuses du VIH. Celles sont les dernières estimations de Santé publique France. C'est un chiffre qui malheureusement ne recule plus depuis plusieurs années, d'où la préoccupation, tout comme le fait que 40% des infections sont découvertes à un stade tardif. Il s'écoule en moyenne presque 2 ans entre la contamination et le diagnostic en France. Les experts préconisent donc de renforcer les politiques de dépistage, d'élargir l'accès aux traitements préventifs. En France, les autorités sanitaires estiment que plus de 10 000 personnes ignorent leur séropositivité.
Merci Anne Le Gall. Le billet science, c'est tous les matins sur France Info.
Pourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Et oui, les tarifs douaniers de Donald Trump sur le Mexique et le Canada font trembler le monde des affaires et les gouvernements provinciaux et fédéraux du Canada. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux cette semaine. Trump veut ce qu'il veut, alors que veut-il ? Et comment pouvons-nous lui donner ce qu'il veut sans perdre notre chemise ? Allez, une petite analyse de Chantal Hébert, journaliste sur les ondes de Radio-Canada, captée cette semaine.
Bienvenue à Trump 2.0.
Ben oui.
Et ça, c'est juste l'avant-première, la répétition générale, puisqu'il n'est pas encore président avant le 20 janvier. Et on annonce qu'on va déclencher une guerre commerciale. Pour vous donner une idée de la disproportion de cette menace de tarif de 25 % qu'on imposerait à toutes les importations du Canada, et je pense qu'on vous a déjà donné un portrait de ce que ça veut dire, par exemple, dans la fabrication d'une automobile. À chaque fois qu'il y a une poignée de portes qui traverse la frontière, on ajoute un tarif de 25 %. Les réactions politiques, parce qu'elles vont survenir. Bon, d'abord, le New York Times rapporte deux choses, que ça a pris seulement 2 heures à Justin Trudeau pour téléphoner à Donald Trump, 2 heures après son message sur les médias sociaux. 2 heures, c'est probablement le temps que ça prend pour organiser un appel téléphonique. Le New York Times ajoute qu'ils se sont parlé pendant 2 heures. Ça, c'est long, longtemps. Comme conversation, et on peut croire que M. Trudeau a passé la soirée au téléphone parce qu'il a également parlé au premier ministre Ford en Ontario et à François Legault au Québec. Pourquoi ces deux-là en particulier? Ben, quand il parle à ces deux premiers ministres-là, il parle quand même au premier ministre des deux plus grosses provinces et donc de celles qui pourraient être, mais pas exclusivement, les plus touchées par cette menace. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux ou pas? Il n'y a pas d'option sinon que de prendre au sérieux ce qui sort de Washington et de la prochaine Maison-Blanche, même si dans la vraie vie, il y a peu d'observateurs économiques qui vont dire que ça tient debout des tarifs de 25 %. Pourquoi? Parce que l'impact se ferait sentir aussi sur l'économie américaine et sur le coût des produits aux États-Unis. Surtout, l'économie canado-américaine est tellement imbriquée au niveau des chaînes d'approvisionnement, au niveau de l'énergie, au niveau des automobiles. Faites la liste que de dire on va punir le Canada sans que les États-Unis s'en ressentent, c'est impossible. Et d'ailleurs, toute guerre, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit commerciale, ne se fait jamais sans coût pour celui qui la déclenche. C'est pas comme ça que ça marche, une guerre.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara.
Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Wallen. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie France vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie France, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pau Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie France.
Smartphone pour Noël, on vous en supplie, un smartphone pour Noël.
Vous êtes bien trop jeune, encore des enfants.
Vous passez trop de temps sur les écrans.
Non, 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 non,
pas de smartphone pour Noël.
Mais on connaît tous les dangers,
les sites interdits et les faux amis,
les messages qui blessent, les photos de fesses.
Arrêtez de stresser, on n'est plus des bébés, vous voulez nous couper, nous surprotéger.
Quand on avait votre âge, pas besoin de smartphone,
parce qu'à votre époque, il n'y avait pas de smartphone.
Cyberharcèlement, c'est ça, plus inquiétant. Vous n'êtes pas préparé à être si connecté.
Non, 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 non.
Pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone pour Noël. Pas de smartphone.
Pauvre éducation, une injustice pure. Donnez-nous une chance, faites-nous confiance.
Pas de smartphone, zéro dangereux.
On vous promet, on sera sérieux.
Non, 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 non.
Pas de smartphone pour Noël.
On s'en supplie.
Pas de smartphone pour Noël.
On n'aura plus d'amis.
Pas de smartphone pour Noël.
On vous entend, parents et enfants, vos préoccupations, vos revendications, et on peut vous réconcilier avec Cyberphone cette année.
Un smartphone reconditionné, de qualité, super sécurisé, livre et conseil personnalisé. Si vous êtes passionné, le cache intégral des numéros suspects, plus besoin d'être inquiet, voilà ce qu'on voulait.
Cyberphone pour Noël, Cyberphone pour Noël, Cyberphone pour Noël.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfou. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfou, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfou. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfou s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur OISI. .utoronto.ca/fr/Créfou ou tout simplement popourichaud.com.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Chaud et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez mais l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. et notre espoir de revoir la lumière. Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie, séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Enfant de tout pays, donnez vos mains, le Christ donnez l'amour et lui donnez la vie. Enfant de tout pays et le tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur.
Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.
Enfant de tout pays, donnez vos mains, semez l'amour.
Viendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur.
Je suis sentimental, et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé.
Il est de passage au Québec pour sa toute dernière tournée. Enrico Macias a chanté au guitare-guitare, les gens du Nord, l'Oriental, et son tour de chant est tellement riche. Hein? Vous avez parlé de la fête, de la famille, de l'amour. Enrico Macias, bonjour.
Bonjour, mais vous avez oublié, dis-moi ce qui ne va pas.
Mais j'en ai oublié bien d'autres.
Ah oui, bien d'autres aussi.
Ben là, mais, écoutez.
Mais
là.
Ici, c'est l'hymne du Québec pour moi.
Et ma chanson préférée, c'est Chanter, n'est-ce pas?
Elle
c'est
est bien.
C'est incroyable, ouais. Hein? Au fil des jours, on apprend que pour vivre plus longtemps, un sourire,
ça vaut bien mieux que de l'argent.
Wow.
Voilà.
60 ans de carrière, votre dernière tournée au Québec. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, M. Macias?
Eh bien, d'abord, je dois vous dire que je suis venu la première fois ici en 1968. Et dans mon entourage, on m'a dit, tu sais, le public ici, il faut que ça marche bien parce que si tu leur plais, ça durera une éternité. Parce que le public d'ici est très fidèle.
Mm-hmm.
On m'a dit ça.
Voilà.
Et je me suis rendu compte que c'était vrai puisque maintenant, à l'aube de mes 86 ans.
En décembre?
Ouais. Au mois de décembre, je suis encore venu ici. Et ici, j'en ai plein des souvenirs.
D'ailleurs, on a une surprise pour vous, M. Macias. On va demander à Emmanuel en régie. On a des images de vous en 1969, ici au Québec. Regardez.
Ah là là,
c'est
oui.
Vous. Oh là là, on va vous écouter.
J'étais persuadé qu'ils allaient me recevoir de cette façon parce que moi aussi, de mon côté, j'ai voulu leur donner quelque chose de digne de leur confiance.
Je parlais vite.
Oui, hein? Il était comment, le jeune Enrico Macias, là, en 69, là? Quel souvenir gardez-vous?
J'ai un souvenir d'un public absolument exceptionnel qui me donnait beaucoup d'énergie. Et j'ai le souvenir aussi de l'habitude. Je me suis habitué au froid. Je me suis habitué. Ouais. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans les tempêtes de neige, il y avait une solidarité exceptionnelle. Les gens s'arrêtaient, aidaient les autres voitures. Ça m'a frappé.
Mmh. Et semble-t-il que vous reveniez au Québec à chaque année, bon an, mal an, là?
Oui, je reviens très souvent, régulièrement au Québec. J'adore.
Quelle carrière extraordinaire. 50 millions d'albums, on l'a déjà vendu, on l'a dit. Vous êtes né en Algérie, vous avez fait le tour du monde, vous êtes né de parents musiciens. D'ailleurs, on a des images de vous avec votre père en train de jouer sur scène.
Oui.
Votre histoire, elle est fabuleuse, elle est faite d'accidents. Vous avez chanté avec Johnny Hallyday, avec Dalida. C'est une carrière, c'est une vie de rêve, en quelque sorte.
Vous savez, en 60 ans, on peut faire beaucoup de choses.
Hein? Oui, vraiment.
Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est que ma première venue à Montréal, ouais, au Québec, ça a déclenché ma carrière internationale.
Okay.
C'est ici que, c'est à cause enfin grâce à mon passage au Québec, que j'ai pu aller aux États-Unis, que j'ai pu aller au Japon, que j'ai pu aller en Union soviétique, pas de partout.
D'ailleurs, vous avez dit quelque chose d'absolument extraordinaire à TV5 Monde. Vous avez dit, les gens qui oublient leur passé, les gens qui oublient leur identité, ce sont des gens pas bien parce qu'il faut se rappeler d'où on vient. Et à 85 ans présentement, là, Enrico Macias, là, votre identité est plus forte que jamais. Et vous avez même dit, j'aimerais retourner en Algérie une dernière fois.
C'est vrai, parce que je suis frustré de ce problème, parce que j'ai fait le tour du monde et je n'ai pas pu retourner sur ma terre natale. J'ai pas pu. Bon, pour des raisons X qu'on va pas développer maintenant, ça sert à rien. Mais c'est quand même une frustration. C'est une frustration.
Ouais, vous dites aussi que chanter, faire cette tournée, entre autres, d'ailleurs, il y a un magnifique album, hein, de cette série de concerts enregistrés à l'Olympia. C'est magnifique qu'on peut écouter, là. C'est une forme de thérapie, parce que vous avez eu des ennuis financiers il y a quelques temps, mais pour vous, chanter, ça vous fait oublier vos problèmes encore aujourd'hui, finalement.
Bien sûr, mais pour moi, chanter, c'est un médicament. C'est un médicament. Et surtout, que chanter, c'est pas seulement chanter dans sa cuisine ou dans sa salle de bain. C'est aussi chanter pour des gens. Et c'est de transmettre mon énergie au public. Et le public me donne de l'énergie.
Alors, vous transmettez le flambeau à votre petit-fils, hein, Simon Macias, avec qui on a des images, d'ailleurs, avec qui vous chantez parfois. Ça va être symbolique pour vous aussi de terminer cette carrière, mais de faire cette passation des pouvoirs, si vous voulez. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre petit-fils pour qu'il réussisse, finalement, dans le métier? Ce qui n'est pas évident.
Ah, je lui ai dit quelque chose de très important, parce que, de temps en temps, il est impatient. Et je lui ai dit, tu sais, si tu crois toujours en toi, faut que tu sois patient, parce que le succès, ça arrive quand on s'y attend le moins. Quand on s'y attend le moins. Je dois dire que je suis chanceux d'avoir des petits-enfants qui aiment qui la musique, et puis j'ai aussi la fille de mon fils, ma petite-fille, est elle qui est en train d'entreprendre une carrière de chanteuse, et elle a eu un contrat par Hollywood. Hollywood lui a fait signer un contrat. Elle chante extraordinairement bien. Son style n'est pas du tout le mien, pas du tout. Et elle a son style propre. Et je pense qu'elle va aller, elle va suivre les traces de son grand-père.
Bon, vous allez être en tournée à partir de mercredi prochain un peu partout au Québec. Joliette, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe. C'est un dernier au revoir au Québec, finalement, tout ça.
C'est jamais un dernier.
Non?
Je veux pas que ce soit le dernier.
Non, bien sûr.
Je ne veux pas. Ouais. Je ne veux pas parce que j'ai jamais voulu faire mes adieux, même quand j'ai eu des problèmes importants.
Oui, parce que vous avez eu des problèmes de santé,
ouais,
et vous avez reporté certains concerts.
Oui, oui. Mais c'est pas grave. C'est jamais ma dernière tournée. La preuve, c'est que je devais faire cette tournée au mois de juin. Je suis tombé malade. J'ai eu deux vertèbres cassées, mais c'était une fracture de fatigue, c'est tout. Et je m'en suis remis. Et je suis revenu quelques mois après ici. Donc, c'est jamais la dernière tournée.
Vous terminez à peu près tout le temps vos concerts avec la chanson L'Orientale, hein, qui est un de vos grands succès, bien entendu. Vous avez toujours plaisir à chanter ça, parce que vous faites interagir le public, d'ailleurs, lorsque vous êtes ici.
Bien sûr, mais vous savez, moi, j'ai plusieurs racines musicales. Musique orientale, musique occidentale. Toutes ces racines s'enchevêtrent, et ça donne le style Enrico.
Voilà. Alors, on va se quitter, si vous me voulez bien, avec votre grand succès, Les filles de mon pays, qui a été un petit accident quand même, hein, parce que ce refrain-là, vous le vouliez pas, là.
Ah non, parce que quand j'ai fait la musique avec Jean-Claude Ric, il a demandé à Pierre Court de faire le texte. J'ai reçu le texte, ouais. Le titre m'a plu, Les filles de mon pays, ça m'avait plu. Mais dans le refrain, il y avait « Laï, 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 laï ». Alors je l'ai été le voir, ouais. Je lui ai dit « Mais dis-moi, tu t'es pas foulé, tu peux quand même bien me mettre des paroles à la place de « Laï, laï, laï ». Voilà. Et pendant un an, j'ai pas voulu sortir la chanson. Et après, on m'a convaincu qu'on ne pouvait pas mettre de paroles à la place des « Laï, laï, laï », c'est resté « Laï, laï, laï ». J'étais convaincu, je l'ai enregistré. C'est le plus grand tube de ma carrière.
On se quitte justement sur Les filles de mon pays, Enrico Macias. Je vous souhaite une excellente tournée au Québec. Merci à la maison d'avoir été à l'écoute. C'est ce qui m'a fait à D'abord l'info. On se quitte sur Les filles de mon pays, Enrico Macias.
Merci.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.
Et oui, c'est ici que prend fin notre voyage intercontinental. Et je souhaite un bon séjour à Enrico Macias chez nous. J'espère que la semaine qui s'avance sera meilleure. Je vous souhaite de tout cœur. Et si vous êtes dans la grande région de Montréal, le Salon du Livre vous y attend. Dernière journée ce dimanche. Table ronde, grands entretiens, causeries. Plusieurs personnalités sont au rendez-vous. Et oui, une place aux jeunes cette année. Les amateurs d'histoire, de peur, âgés de 10 à 17 ans, ont rendez-vous avec Brian Perrault, Magali Laurent, pour une discussion sur le thème de l'horreur et du mystère. Comment se porte la francophonie? Eh oui, la francophonie semble parfois être une idée lointaine et abstraite. Pourtant, ses actions répondent aux demandes des membres sur le terrain. 12-13 novembre dernier, le Sénat cambodgien et l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont organisé un séminaire d'information et d'échange sur le rôle et les compétences du service de recherche du Parlement. Alors que la grève se poursuit à Post-Canada, la Société d'État a dévoilé mercredi dernier au Salon du Livre de Montréal 5 nouveaux timbres qui rendent hommage à de grandes figures de la littérature francophone issues de la diversité de toutes les régions du pays. De Vancouver à Bouctouche, de Sudbury à Montréal, en passant parfois par Miami, Cape Cod ou Paris, 5 plumes canadiennes exceptionnelles ont marqué notre imaginaire collectif. Marie-Claire Blé, Jean-Marc Dalpé, Denis Laferrière, Antonine Maillet et Marguerite A. Primo. Et merci à DJ Levera, RFI France 24, à TV5 Monde, et vous, chers donatrices et donateurs au Canada et à travers le monde. Mille merci. Vous retrouverez certaines de ces annonces sur notre site popourichaud.com, allez-y. Et aussi que les cadeaux distribués cette semaine et la semaine prochaine aux participants de notre collecte de fonds automnale 2024. Et je vous laisse avec Okavango Orchestra qui sera au concert le 20 décembre, une fête à ne pas manquer. Tous les détails sur popourichaud.com. J'ai 2 paires de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. popourri@cut.fm. Bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Ciao, ciao, ciao!